Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Collège supérieur pour cette soirée. Ceux qui participent à l'ensemble du cycle de conférences et qui sont venus à chaque fois que c'est moi qui vous ai adressé la parole, vous m'avez entendu déjà à 4 reprises sur le thème général de la parole de Dieu. J'ai en effet construit un itinéraire en 5 soirées qui nous conduit à explorer ce que veut dire que Dieu parle. Et à chaque fois, j'ai essayé d'allier une présentation d'un aspect de cette question et une proposition, une thèse, une position qui veut explorer un aspect de la recherche actuelle sur ce thème. Je rappelle brièvement le parcours que nous avons suivi qui permettra de montrer pourquoi nous posons cette question-là aujourd'hui. Nous avons suivi un parcours qui nous a d'abord amené à nous poser la question suivante. Dieu est-il muet? La réponse était non. Dieu parle. Plus que cela, Dieu est parole. Et nous n'avons accès à Dieu que par la parole et par ce qu'il dit lui-même de lui-même. Ce que les théologiens appellent l'autocommunication de Dieu. Dieu se donne lui-même dans l'histoire. Et nous sommes partis de celui qui a ouvert ou réouvert la question de la parole de Dieu au XXe siècle, le théologien réformé Karl Barth, et des, on pourrait dire, des effets théologiques de l'œuvre de Karl Barth dans la constitution du Concile Vatican II sur la parole de Dieu, Dei Verbum. Nous avons ensuite, en novembre et décembre dernier, exploré ce lieu où se donne la parole de Dieu, la Bible. Dans un premier temps, j'ai donné un certain nombre d'informations sur ce qu'est la Bible. Puis je me suis demandé ce que veut dire lire la Bible comme parole de Dieu. Y a-t-il un acte spécifique de lire la Bible lorsqu'on la lit comme parole de Dieu? Et enfin, nous avons commencé à lire ensemble les 3 premiers chapitres de la Genèse. Dieu donne, il s'adresse à l'humain et il ouvre un dialogue. C'était la conclusion de cette soirée. C'est cet espace de dialogue que l'on nomme prière, que nous avons exploré la dernière fois, en février. Et nous sommes parvenus à la conclusion que la prière manifeste son essence lorsqu'elle est louange adressée à haute voix. La description de l'acte de prier permettant en retour de saisir l'essence de la parole. Si la prière est à haute voix, cela entraîne pour conséquence qu'elle est à chaque fois unique, puisqu'il n'y a pas 2 voix semblables. On reconnaît quelqu'un à sa voix, y compris sur un enregistrement audio. C'est sur les manières dont prennent corps la prière que nous devons poursuivre notre réflexion aujourd'hui. Sur les manières dont prennent corps la prière. Nous allons le faire en nous posant la question suivante. Qu'est-ce qu'une spiritualité? Comme à chaque fois, la question posée en titre est immense et nous n'allons faire que commencer de l'aborder. Donc après une introduction, je vais chercher à situer le concept de spiritualité, à montrer comment il apparaît dans l'histoire et ce qu'il signifie. Assez brièvement, je vais éviter 2 pièges. Le premier qui serait de faire une liste rapidement commentée des différentes spiritualités. Spiritualité dominicaine, spiritualité jésuite, spiritualité du Carmel, spiritualité musulmane soufie, spiritualité du judaïsme hassidique, spiritualité des familles, spiritualité des sportifs, spiritualité du travail, etc. etc., etc. On a des manières différentes de découper des spiritualités. Le second piège que je voudrais éviter serait de proposer une description générale de la spiritualité, ce qu'on trouve très bien fait dans les livres, donc c'est pas la peine de venir ici pour cela. Bref, la question n'est pas quelles sont les différentes spiritualités, la question n'est pas non plus qu'est-ce que la spiritualité, mais bien qu'est-ce qu'une spiritualité. Et c'est donc la question que nous allons traiter, qu'est-ce qu'une spiritualité? Je vais le faire en 2 parties, à travers 2 corpus, 2 œuvres, 2 auteurs. D'abord le journal laissé par une femme française du XXe siècle, puis les écrits laissés par une autre femme italienne du XIIIe siècle et qui a fondé un ordre religieux qui existe encore. D'une part donc une voix, V-O-I-E ou V-O-I-X, comme vous voulez, d'une part une voix solitaire, Simone Veil, et d'autre part une voix qui s'ajuste en harmonie avec d'autres, puisqu'elle écrit une règle, Claire d'Assise. J'ai bien conscience que 2 objets d'étude pour 1 heure et demie de conférence, c'est beaucoup, mais je crois que c'est intéressant puisque la pensée peut se développer dans l'écart creusé, suscité entre ces deux œuvres. Et cela nous permettra de commencer, d'accéder à ce que peut être une spiritualité, l'enjeu étant pour nous de concevoir aujourd'hui et de pratiquer, chacun selon notre voie propre, une spiritualité. J'indique, avant de commencer mon introduction, rapidement que je m'inspire ici de deux auteurs. Je m'inspire moins pour ce qu'ils disent que pour leur méthode de travail ou leur manière d'aborder l'histoire de la spiritualité. Le premier, c'est Michel Foucault, auteur de « Les mots et les choses »,« Surveiller et punir », etc. Et l'autre, c'est Michel de Certeau, auteur d'un ouvrage magnifique qui s'appelle « La fable mystique ». Et je m'arrêterai de parler dans une heure exactement, à 21h10, pour que nous ayons le temps ensuite de discuter. Spiritualité, donc. Spiritualitas. C'est un mot latin qui apparaît au 5e siècle, et qui apparaît à partir de l'adjectif spiritualis. Adjectif que l'on trouve par exemple chez Tertullien, et qui permet de traduire le grec pneumatikos. Pneumatikos, c'est le terme employé par saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, je cite, « L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui et il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. » Pneumatikos. L'homme spirituel, pneumatikos, spiritualis, au contraire, juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Et nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair. Du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dispute, n'êtes-vous pas charnel et votre conduite n'est-elle pas toute humaine? Donc saint Paul distingue au moins, l'homme spirituel, qui est donc celui qui a en lui la pensée du Christ, qui vit selon l'esprit du Christ, qui voit et juge des choses du point de vue de l'ordre de l'amour, pour reprendre la théorie des ordres de Pascal. C'est du point de vue de l'amour que juge, que voit le monde, l'homme spirituel, par opposition à l'homme charnel, carnalitas. Les chrétiens vivent d'esprit, affirme encore saint Paul. La vie spirituelle ne désignant pas une partie de la vie, il n'y a pas la vie spirituelle comme partie de la vie à côté de d'autres parties, mais un accès à la vie. La vie spirituelle, c'est quoi? La vie spirituelle, c'est la découverte de l'amour dont Dieu aime librement les hommes et l'acheminement vers Dieu en imitant le Christ. La découverte de l'amour dont Dieu aime les hommes, puis l'acheminement vers Dieu à l'imitation du Christ. Ce chemin vers Dieu, qui caractérise la vie spirituelle, est exposé dans des ouvrages aussi anciens, par exemple, que « L'échelle sainte » de Jean Climac, métaphore habituelle de l'échelle comme montée vers Dieu, métaphore que l'on trouve déjà dans le livre de la Genèse, l'échelle de Jacob, ou d'autres ouvrages plus connus de vous peut-être, comme « Le château intérieur » de Thérèse d'Avila, ou la montée du Mont Carmel de Jean de la Croix. Donc la vie spirituelle, c'est un chemin vers Dieu, un élan vers, l'amour étant le nom de cet élan vers, ou de ce qui motive cet élan, ou de ce qui est la source de cet élan, l'amour. Ce chemin vers Dieu conduit à passer par des étapes successives, purification, illumination, communion. On distingue traditionnellement, lorsque l'on traite de la vie spirituelle, de deux attitudes. La première étant l'ascèse comme purification de l'âme par la pratique des vertus cardinales, prudence, force, tempérance et justice. Donc ascèse d'une part et mystique de l'autre. La mystique désignant l'union à Dieu. L'union à Dieu par la pratique, cette fois, des vertus théologales, c'est-à-dire les vertus qui donnent Dieu, qui donnent la présence de Dieu, qui mettent en communion avec Dieu la foi, l'espérance et l'amour. Donc ascétique, purification intérieure, et mystique, union à Dieu. Il y a une célèbre revue jésuite du début du XXe siècle, qui s'appelait la Revue d'Ascétique et de Mystique. Donc la spiritualité est la marche à la suite du Christ. On peut résumer les choses comme ça. En tout cas, historiquement, comme point de départ du concept de spiritualité. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui ? On va y venir. Mais en tout cas, historiquement, c'est cela. La spiritualité, c'est la marche à la suite du Christ. Ce thème de la marche à la suite du Christ, ou de la course à la suite du Christ, on la trouve, par exemple, et c'est un des deux exemples donc, sur lesquels je vais m'appuyer, sur les écrits, dans les écrits, de Claire d'Assise. Alors, un mot sur Claire d'Assise, mais vous avez ça sur la feuille que vous avez entre les mains. Claire d'Assise, une femme qui naît à la fin du XIIe siècle, à Assise, donc, qui rencontre un de ses compatriotes, François d'Assise, qui cherche à vivre comme lui la suite du Christ dans la pauvreté, qui s'enfuit de chez ses parents le dimanche des Rameaux 1212. Donc nous avons fêté le 8e centenaire de la fondation de l'ordre de Sainte-Claire l'année dernière, et qui s'installe et vit avec des femmes qui la rejoignent dans un monastère à Saint-Damien, près d'Assise. Aujourd'hui, c'est inclus dans la ville d'Assise. Et qui va vivre une vie, si je puis dire, complète. Enfin, ce n'est pas une femme qui mourra jeune. Et qui, à la fin de sa vie, écrira une règle qui codifie ce qu'elle a vécu pour ses sœurs. Première règle religieuse écrite par une femme pour des femmes. Donc, Claire d'Assise écrit une règle, écrit quatre lettres, et dans, par exemple, la deuxième lettre à Agnès de Prague, on trouve le passage suivant, donc je lis, elle lui dit à sa correspondante, « Ce que tu tiens, tiens-le. Ce que tu fais, fais-le et ne le lâche pas. Mais d'une course rapide, d'un pas léger, sans entrave aux pieds, pour que tes pas ne ramassent même pas la poussière, sûre, joyeuse et alerte, marche prudemment sur le chemin de la béatitude, ne croyant rien, ne consentant à rien, qui voudrait te ramener de ce propos, qui poserait sur ta route un scandale, pour que tu n'accomplisses pas tes vœux au Très-Haut, dans cette perfection où l'Esprit du Seigneur t'a appelé. » Je ne vais pas étudier pour l'instant ce passage, mais on a le fait que cette voie spirituelle, on la suit appelée par un autre, ici l'Esprit du Seigneur, une route sur laquelle on marche et qui permet d'accéder à la béatitude, au bonheur. Dans la lettre suivante, autre manière de dire les choses, la lettre 3, alors le texte que vous avez uniquement la lettre 4, sur laquelle je m'appuyais essentiellement, je vais y venir après. « À ta bonne santé, ton heureux état et tes succès florissants, je comprends que dans la course entreprise pour obtenir la récompense céleste, tu es pleine de vigueur. » Et j'en suis rempli de tant de joie. Et je respire d'autant plus en exaltation dans le Seigneur que j'ai appris et je constate que tu supplées merveilleusement à ce qui est défectueux, tant en moi qu'en mes autres sœurs, dans l'imitation des traces de Jésus-Christ, pauvre et humble. Expression claire de ce qu'est la spiritualité pour Claire d'Assise, l'imitation des traces de Jésus-Christ, pauvre et humble. L'imitation des traces de Jésus-Christ, pauvre et humble. Ce thème, ce concept d'imitation du Christ, est un concept technique qui dit la marche à la suite du Christ, qui a donné son titre, par exemple, à un traité de spiritualité extrêmement célèbre, du début de la modernité, qui s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ », traité qui est lu, relu, qui ne cesse d'être lu, entre le XVIIe et le milieu du XXe siècle, ce qui est étonnant, traité de spiritualité extrêmement lu, est tombé en désuétude d'un coup dans les années 50, pour plein de raisons qui n'est pas notre sujet aujourd'hui. Bon. Donc la spiritualité, la marche à la suite du Christ, un auteur plus récent qui le dit très bien dans un livre dont j'ai déjà cité le titre, c'est Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, dans un livre qui s'appelle « Vivre en disciple, le prix de la grâce ». Bon. Donc la spiritualité est celle que l'on trouve dans l'Évangile et qui s'exprime au fil de l'histoire dans des spiritualités diverses, que l'on nomme des écoles de spiritualité. La spiritualité de Saint François, par exemple, la spiritualité du Carmel, grande spiritualité constituée dans ses textes, sa doctrine, le Carmel, ou encore l'école française de spiritualité, qui se développe en France au XVIIe siècle avec Bérulle, l'oratoire, qui a marqué la naissance, la création des séminaires, là où sont formés les prêtres, depuis cette époque-là. Une spiritualité, point suivant, précision, surgit d'une expérience. D'une expérience. C'est quelqu'un qui se met à la suite du Christ et qui cherche à vivre l'évangile, qui va ouvrir, donner lieu à une nouvelle spiritualité, une nouvelle manière de suivre le Christ. C'est, par exemple, à la fin de sa vie que Claire d'Assise écrit une règle pour ses sœurs, mettant par écrit la manière qui lui est propre, la voie, V-O-I-E ou V-I-O-I-X, qui lui est propre, pour suivre le Christ. Le mot spiritualité est d'usage assez récent. Pour le dire simplement, il est utilisé à partir du XIIIe siècle, mais il devient usuel à partir du XVIIe, et il est aujourd'hui, mais c'est assez récent, ça date du XXe siècle, devenu un mot du langage courant. Et le fait que le mot spiritualité c'est du langage courant, c'est récent, dans toutes les langues européennes. Il a quitté en cours de route le domaine chrétien, s'est débarrassé de d'autres usages qu'il n'a plus aujourd'hui, comme un usage juridique. Dans le droit de l'Église, on oppose le domaine du temporel et le temporel à la spiritualité. Donc, il a abandonné ses autres sens. Il a quitté le domaine chrétien pour désigner la vie intérieure. Aujourd'hui, la spiritualité désigne ce qui relève de la vie intérieure. Émile Littré, à la fin du XIXe siècle, dans son dictionnaire, en donne la définition suivante. Spiritualité, ce qui est dégagé de la matière et des sens. Tout ce qui a rapport aux exercices intérieurs d'une âme dégagée des sens, qui ne cherche qu'à se perfectionner aux yeux de Dieu. Je répète, ce qui est dégagé de la matière et des sens, spirituel, spiritualité, tout ce qui a rapport aux exercices intérieurs d'une âme dégagée des sens, qui ne cherche qu'à se perfectionner aux yeux de Dieu. On retrouve ici la définition, on pourrait dire, traditionnelle de la spiritualité. La spiritualité comme ascèse, exercice pour se dégager des sens, se perfectionner aux yeux de Dieu. Ascèse, purification. Est-ce cela aujourd'hui la spiritualité? Une question qu'il faudra se poser. Est-ce cela aujourd'hui? La spiritualité, d'abord, aujourd'hui, se conçoit sans Dieu. Il y a des spiritualités sans Dieu. Des spiritualités sans Dieu, par exemple, on parle du bouddhisme comme étant une spiritualité sans Dieu. Ou même des spiritualités athées. On pense par exemple à l'ouvrage d'André Comte-Sponville, qui a pour titre « L'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu » en 2006. Mais il existe beaucoup d'autres livres dont le titre même use du mot « spiritualité » et ce dont il est question, ce sont des spiritualités sans Dieu. Il existe donc aujourd'hui une demande forte de spiritualité en Occident, mais dégagée des religions traditionnelles, la plupart du temps, et souvent sans Dieu. Et même dégagé de toute pratique ascétique. Et c'est une question qu'il faudra se poser dans les questions ou en conclusion. Qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité aujourd'hui qui ne soit pas ascétique, c'est-à-dire qui prenne en compte, disons, le corps, les sens, la sensualité. Bon, puisqu'aujourd'hui, à mon avis, il faut penser à une spiritualité qui ne soit pas ascétique. Je vais essayer de conclure là-dessus. Je quitte le champ de l'étude historique pour proposer une définition de la spiritualité que je vais faire opérer et qui s'éclairera donc tout au long de ce que je vais dire. La spiritualité, ça désigne la manière, donc vous allez voir que je ne fais pas intervenir Dieu dans la définition que j'en donne. La spiritualité désigne la manière dont un individu se rapporte à lui-même. Ça désigne un ensemble de dispositifs par lesquels les individus sont constitués comme sujets, donc des manières de faire, des manières de se rapporter à soi, qui sont liées à des systèmes de représentation investis d'une valeur de vérité. Par exemple, le christianisme, système de représentation, investi d'une valeur de vérité pour ceux qui y croient, et lié à un certain nombre de pratiques. La messe le dimanche matin, le jeûne du carême, etc. J'emprunte la définition suivante de spiritualité à Michel Foucault. La spiritualité, c'est la recherche, la pratique, l'expérience par lesquelles le sujet opère sur lui-même les transformations nécessaires pour avoir accès à la vérité. L'ensemble de ces recherches, pratiques et expériences, que peuvent être les purifications, les ascèses, les renoncements, les conversions du regard, les modifications d'existence, qui constituent, non pour la connaissance, mais pour le sujet, pour l'être même du sujet, le prix à payer pour avoir accès à la vérité. La spiritualité postule donc, c'est moi qui parle là, que la vérité n'est jamais donnée au sujet de plein droit. Le sujet doit se modifier, se transformer, s'altérer pour accéder à la vérité. Car tel qu'il est, le sujet n'est pas capable de vérité. On peut distinguer vérité et connaissance. Donc, il y a des connaissances, et c'est le régime de la connaissance aujourd'hui en Occident, qui ne suppose pas un travail du sujet sur lui-même. Je veux dire simplement, un mathématicien ou un physicien peut être un très bon mathématicien ou un très bon physicien, qu'il soit bon ou mauvais moralement. Il peut avoir une pratique de physicien ou de mathématicien de très bon niveau, même si c'est le pire des salauds et qu'il est en prison, qui tue, qui viole par ailleurs. Ça n'impacte pas, comme on dit aujourd'hui, ça n'a pas de conséquence sur sa pratique, sur son métier. Or, pour la spiritualité, il n'y a pas d'accès à la vérité sans un travail sur soi, sans un travail de transformation de soi, de modification de soi-même. L'accès à la vérité est à ce prix-là dans la spiritualité. Je crois qu'il faut bien distinguer une connaissance d'une vérité. Une connaissance, ça ne nous affecte pas. Une vérité, c'est quelque chose qui nous affecte, qui nous touche profondément, qui modifie notre manière de voir le monde, une vérité. Je prends un exemple très simple. Vous apprenez que Monsieur Machin a trompé Madame Machin et a une double vie. Vous ne connaissez pas Monsieur Machin ni Madame Machin, c'est une connaissance. Par exemple, vous l'apprenez dans le journal. Vous avez une connaissance en plus, mais ça ne vous affecte pas. Vous apprenez que votre mari vous trompe, qu'il vous trompe depuis longtemps, qu'il a une double vie. Vous l'apprenez, ça va vous affecter. Ça va transformer d'un coup toute votre vie. Votre manière de voir va être changée d'un coup. C'est une vérité. Donc je crois qu'il faut bien faire la différence entre une connaissance et une vérité. Une vérité, c'est ce qui transforme le sujet lorsque cette vérité l'atteint. La vérité, elle se déploie entre un travail sur soi, une transformation progressive de soi sur soi, d'une part, et d'autre part, l'advenu de la vérité qui illumine le sujet. On reçoit la vérité. Donc la spiritualité, elle est prise entre un travail sur soi, une ascèse, askésis, en grec, et quelque chose qui se donne, qui advient, l'amour, éros, l'érotique. Donc, la vérité est liée à un système de pensée, mais elle est plus vaste, on pourrait dire, et assez autonome par rapport au système de pensée. Je veux dire que deux personnes peuvent adhérer au même système de pensée, à la même conception du monde, à la même conception du vrai, et avoir deux spiritualités différentes. Donc, une même conception du vrai peut donner lieu à deux spiritualités différentes. Par exemple, deux chrétiens qui ont la même conception du vrai, qui tiennent pour vrai le même credo, peuvent avoir deux spiritualités très différentes. Il n'y a pas grand-chose de commun entre une Clarisse qui se soumet à la règle de Claire d'Assise et qui vit dans son monastère, d'une part, et d'autre part un couple qui vit sa vie chrétienne dans une paroisse et qui adhère par exemple à la spiritualité des équipes Notre-Dame, spiritualité pour couple. Donc même conception du vrai et deux spiritualités qui n'ont à peu près rien à voir. Mais deux personnes peuvent avoir deux conceptions du vrai différentes et pratiquer, si ce n'est une même spiritualité, en tout cas une spiritualité semblable, ce qu'il faudra éclaircir. Par exemple, il y a beaucoup à voir, et même il y a à voir essentiellement, entre la spiritualité que pratique le philosophe grec cynique. Le cynisme, c'est un courant de la philosophie grecque, hein, c'est pas au sens où on dit aujourd'hui que quelqu'un est cynique, c'est au sens technique. Vous connaissez peut-être Diogène dans son tonneau. Diogène qui abandonne tout, qui vit en public, qui vit sous le regard des autres, qui habite dans son tonneau, Diogène le cynique, philosophe grec. Donc il y a spiritualité commune entre la spiritualité du philosophe cynique, sa manière de vivre, sa manière de se rapporter au monde, et la Clarisse dans son monastère. La Clarisse dans son monastère, j'essaierai de le préciser, parce que, enfin, je vais le faire, pratique une spiritualité qui est semblable à la spiritualité du philosophe cynique, parce que c'est le même courant spirituel qui traverse toute l'histoire de l'Occident. Alors, ça pose plein de questions, parce que ça veut dire que si on dit qu'une spiritualité pratiquée permet d'accéder au vrai, ça voudrait dire que le philosophe cynique qui pratique cette manière de vivre et la Clarisse arrivent, pratiquant la même spiritualité, à la même vérité, ce qui est possible. Voilà. Puisqu'il faut avancer, je voudrais dire un mot, mais en fait, comme il est déjà 33, un mot qui va être beaucoup plus rapide que ce que j'aurais voulu sur Simone Veil. Et puis, on va passer ensuite, parce que je voulais consacrer suffisamment de temps, à Claire d'Assise. Dans la feuille que vous avez, bon, je suis désolé, mais ça permet de vous dire sur quoi je m'appuie. J'ai mis 3 articles que j'ai publiés qui reprennent ce que je vais, enfin, dont je vais dire le point de départ, mais ça permet de reprendre qui est Simone Veil, et en particulier un article de vulgarisation, je peux dire, le 3e qui est en ligne sur Internet, que vous pourrez retrouver facilement. Mais pour dire ce que c'est que la spiritualité, nous ne pouvons pas nous empêcher de désirer. Voilà, le point de départ, c'est ça. Donc là, je parle à partir de Simone Veil, mais je dis des choses suffisamment générales pour passer ensuite à Claire d'Assise. Nous ne pouvons pas nous empêcher de désirer. Plus que cela, nous sommes désir. Le désir est le centre même de notre être. Tant que nous vivons, il y a en nous désir. Si nous ne désirons plus, nous sommes morts. Ce désir, 2e étape, est en lui-même désir du bien. Le désir est un élan vers le bien. L'être même de l'homme consiste à être tendu vers le bien. Nous sommes constitués par un mouvement vers le bien. Ce sont des citations de Simone Veil. L'être humain, donc, est essentiellement acte, agir, mouvement. Or, ce désir se colle sur des objets qui sont donnés à notre imagination. Notre désir passe son temps à se coller sur des objets. Des objets qui sont des représentations, la plupart du temps. Objets qu'on voit devant nous ou objets en représentation. Un coca frais, une soirée au restaurant, le corps d'une femme, un mariage et des enfants, une vie religieuse idéale. Tout ça, ce sont des objets qui viennent à nous et sur lesquels va se coller notre désir. Notre désir passe son temps à se coller sur des objets du monde en permanence. Mais ces objets, nous le savons bien, ne nous satisfont jamais. Parce qu'ils ne contiennent aucun bien, ou un bien qui s'épuise immédiatement. Il suffit de constater, écrit Simone Veil, que tous les biens d'ici-bas, passés, présents ou futurs, réels ou imaginaires, sont finis et limités, radicalement incapables de satisfaire le désir d'un bien infini et parfait qui brûle perpétuellement en nous. Le désir est un mouvement vers le bien, c'est pourquoi il faut le détourner de ce qui est, mais n'est pas le bien, pour le diriger vers le seul bien véritable. Car nous ne pouvons pas faire autrement que nous diriger vers un bien. Nul être humain n'échappe à la nécessité de concevoir hors de soi, un bien vers lequel se tourne la pensée dans un mouvement de désir, de supplication et d'espoir. Nous sommes constitués par un mouvement vers le bien. Nous ne voulons que le bien. Dire que nous voulons toujours et seulement le bien, c'est comme dire que nous désirons le désirer. C'est purement grammatical. Nous désirons le désirable, nous souhaitons le souhaitable, nous aimons l'aimable, etc. De même, nous voulons le bien. Le bien n'est pas autre chose que l'objet de la volonté. Il faut poser d'abord cela, posons bien égale désirable. Je définis bien l'objet de la volonté. Comme tous les vouloirs sont vouloirs, toutes les choses voulues sont bien. Notre être même n'est pas autre chose que ce besoin du bien. Fin de citation. Il faut donc détacher notre désir de toutes les choses qui existent, mais ne sont pas des biens, pour le diriger, notre désir, vers le bien qui n'existe pas, de la manière en tout cas dont les choses du monde existent, qui est notre seule manière d'appréhender l'existence, vers le bien qui n'existe pas, mais qui est le bien, et qui n'a pas d'ailleurs besoin d'exister pour être le bien. Et ce bien infini, Simone Veil l'appelle Dieu. La tradition chrétienne l'appelle Dieu. Je me trouve en ce monde avec mon désir collé sur des choses qui ne sont pas des biens, écrit Simone Veil, qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, je dois l'en arracher, mais cela fait saigner. Donc là, on a avec Simone Veil, on pourrait dire dans ce que j'ai dit, une forme pure de ce qu'on appelle traditionnellement l'ascèse. Détacher son désir des choses qui existent mais ne sont pas le bien, pour tourner le désir vers ce qui n'existe pas, c'est-à-dire qui n'est pas du monde, mais qui est le bien, et que la tradition chrétienne, mais déjà Platon, appelle Dieu. Et qui est infini, qui est un bien infini, et qui va donc combler notre désir du bien infini. Et pour ça, Simone Veil écrit un cahier, un ensemble de notes, où elle va mettre en œuvre cet arrachement du désir pour aller vers le bien, pour rejoindre ce bien absolu, en se proposant des exercices, des manières de faire pour tendre vers le bien, pour opérer une transformation de soi, une conversion du regard, un retournement, une conversion, comme on dit dans la tradition chrétienne, vers l'au-delà du monde, vers ce qui est en dehors du monde et qui va venir combler son désir. Je passe tout ce que j'aurais voulu vous dire pour en arriver à Claire d'Assise pendant la demi-heure qui nous reste. Alors je voudrais dire la chose suivante sur Claire d'Assise. Je voudrais dire d'abord comment j'ai essayé de voir les choses dans un premier temps et puis comment ça ne m'a pas semblé suffisant et comment il m'a fallu aller plus loin pour en arriver du coup à penser la spiritualité aujourd'hui. La première chose que je vais vous dire, c'est, vous avez le dossier de texte que je ne retrouve pas immédiatement, voilà, j'ai la deuxième page en tout cas. C'est d'abord quelque chose que j'ai publié sous le titre « La vie nue sur la forme de vie Clarisse », une lecture de la règle de Claire d'Assise. Je voudrais vous en dire ce que j'ai dit, comment je vois les choses. Mais ensuite, je voudrais vous dire que ça ne suffit pas, ça ne va pas assez loin. Et comment, en fait, il faudrait voir les choses. La règle, pour essayer de penser une spiritualité pour nous aujourd'hui, hein, c'est quand même l'objectif. La règle de Claire d'Assise, c'est donc un texte législatif d'une vingtaine de pages, écrite par Claire d'Assise à la fin de sa vie, entre 1247 et 1252, donc au milieu du XIIIe siècle, et qui a été approuvée par le pape, officiellement, devenant donc la première règle, écrite par une femme pour des femmes. C'est quoi cette règle Claire d'Assise? C'est une forme de vie, que je vais essayer de caractériser brièvement, qui est extrêmement contraignante, assujettissante, et qui vise à manifester le vivre dans ce qu'il a de plus foncier, de plus nu, qui vise à manifester la vérité de la vie. La règle de Claire d'Assise se pratique et donne une forme à la vie d'un vivant, d'une femme, donc. C'est dans le christianisme qu'on trouve cette notion que je viens d'employer de forme de vie. La forme de vie, c'est la manière de vivre, le style de vie qu'on donne à son existence. C'est à la fois le dispositif, tout ce qu'on cherche à faire, et ce que l'on devient. Une forme de vie, c'est le style qu'on donne à son existence. La forme de vie de la règle de Claire d'Assise insiste sur trois points, la clôture, la pauvreté et l'amour mutuel. La clôture, cet espace dans lequel est pris la Clarisse, cette clôture prend tout de la vie de la Clarisse et expose ce tout au regard des autres sœurs. En effet, le corps de la Clarisse est sans cesse exposé, que ce soit à l'église, au dortoir, au réfectoire, au parloir. On ne peut pas parler, quand on est une Clarisse, à une autre sœur sans présence d'une autre sœur, d'une troisième sœur, et même d'une quatrième sœur, dit la règle. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de secret possible. La vie d'une Clarisse élimine tout secret, toute réserve, toute chose que l'on pourrait garder pour soi ou avoir en commun avec une autre. Donc supprime tout ce qui singularise un individu, une Clarisse. Rien ne distingue une Clarisse d'une autre, puisque elles sont habillées pareilles, il n'y a aucune espérance de carrière, aucune différence de position puisqu'il n'y a aucune hiérarchie, aucune espérance dans l'avenir, si ce n'est que les jours se reproduisent identiques à eux-mêmes jusqu'à la mort. Et le corps même de la Clarisse n'échappe jamais à l'espace de visibilité qui est celui de la clôture. Le monastère organise un espace de visibilité où aucun secret n'est possible, où la vie est entièrement exposée. Tout ce qui est fait ou dit est su, vu, entendu. Et donc tout vient à la lumière, hein, comme dit l'Évangile. L'Évangile dit tout viendra à la lumière. Mais ici, donc, dans l'espace de la clôture, tout vient à la lumière. La règle de Claire d'Assise ne laisse rien en réserve de la vie du vivant. Au contraire, elle est ce dispositif qui permet de manifester l'acte même de vivre dans ce qu'il a de plus cru, de plus immédiat, de plus nu. C'est donc un étonnant dispositif qui produit des sujets, mais en visant à effacer toute identité sociale, qui efface toutes les marques, tous les masques, tous les secrets, afin que le simple fait de vivre éclate au grand jour. Donc dispositif qui manifeste la vérité de la vie. Alors que nous, habituellement, nous sommes pris dans plusieurs dispositifs plus ou moins disjoints. Nous avons une vie de famille, donc on est père de famille, par exemple. Nous avons une vie professionnelle. Nous sommes, par exemple, professeurs du sciences économiques et sociales. Autre dispositif, autre manière d'être, autre position sociale, autre masque, on pourrait dire, que père de famille. Donc nous sommes pris dans des dispositifs divers, dans des lieux différents les uns des autres. On est chez soi ou on est au travail. Contrairement à la Clarisse qui vit intégralement sous le regard des autres en permanence et des mêmes autres. Bon, nous sommes ou professeurs dans notre lycée, d'une part, dispositif, celui du professeur, quand on est prof, on joue au prof, voilà, c'est le métier. On est père de famille, on peut aussi avoir une maîtresse, troisième dispositif, qui peut être disjoint, mais qui s'intercale avec la vie de père de famille. Bon, voilà. On est pris dans des dispositifs différents. Dispositifs sociaux, qui sont liés à des masques, à des manières de faire sociales, à des apparences. La Clarisse est prise dans un seul dispositif, au sein de la clôture, qui efface tout ce qui la singularise et dans laquelle il n'y a plus de masque. Il faut insister aussi sur la pauvreté, ni avoir, ni propriété. Donc rien qui vient constituer la subjectivité à partir de l'avoir. Donc l'entrée dans la vie d'une Clarisse comme forme éminente de ce que c'est qu'une spiritualité, on pourrait dire comme une spiritualité à l'état pur, dans sa forme traditionnelle, la vie Clarisse, c'est l'entrée dans un dépouillement de tout ce qui recouvre la vie. Les biens matériels, la position sociale, et jusqu'aux habits. Celle qui entre dans cette vie se retrouve entièrement et physiquement nue, jusqu'aux cheveux qui sont coupés. La Clarisse est celle qui reçoit un habit, dit la règle, à bon marché, identique à celui de toutes les autres Clarisses, un habit qui masque les formes du corps et ne la distingue en rien. Une Clarisse est une femme à qui manque toute insertion sociale, qui n'a pas de patrie, ni de foyer, ni de mari, ni d'enfant, qui va nu-pied, qui dort à même le sol et vit de la mendicité. Donc rien de ce qui est social dans la vie de la Clarisse, manifestation de l'acte même de vivre dans ce qu'il a de plus nu. Or, ça, il faudrait montrer que cette ascèse retrouve ce que pratiquent les philosophes cyniques dans l'Antiquité grecque. Le philosophe cynique, comme Diogène, c'est celui qui n'a rien ou qui ne cherche à avoir le moins possible. Lorsque Diogène rencontre un enfant qui boit avec sa main dans la rivière, il s'aperçoit que lui, il lui reste une écuelle pour boire et donc casse son écuelle pour vraiment n'avoir rien. Bon. Et celui qui fait tout en public. Le philosophe cynique fait l'amour en public. Bon. Il supprime tout ce qu'il peut y avoir de privé dans une existence pour montrer qu'il ne doit pas y avoir de secret, de séparation. Bon, voilà l'analyse que l'on peut faire de la spiritualité de la Clarisse. Mais je crois que ça ne suffit pas à expliquer... Enfin, je me suis aperçu en retravaillant sur les écrits de Claire d'Assise, ça fait ça, les écrits de Claire d'Assise. Voilà, c'est pas très gros, mais on peut passer des heures et des heures sur chaque phrase. Ça ne suffit pas, parce que quelque chose résiste à ce dispositif, ou plutôt un tel dispositif permet un autre rapport à ce que Claire d'Assise appelle, ou ce qu'on peut appeler rapidement, Dieu. Et ce dispositif qui consiste à supprimer tout ce qu'il y a de social, en fait, permet une rencontre avec Dieu. Et permet ce que je vais appeler, c'est le concept que je voudrais définir, parce que pour moi c'est le concept qui est au centre d'une spiritualité aujourd'hui, qui est le concept d'intimité. Une spiritualité aujourd'hui est une spiritualité qui peut être sans Dieu, qui n'est pas forcément ascétique, mais qui fait entrer dans cette attitude ou cette manière d'être que je vais chercher à décrire et que je vais appeler l'intimité. L'intimité qui suppose, je vais le dire, toujours un autre. On est intime avec quelqu'un. Ce qui rejoint l'idée de vie intérieure. Hein. Avoir une vie spirituelle, c'est entrer dans cette manière d'être que je vais décrire et que j'appelle l'intimité. Je vais le faire donc à partir d'une lecture des textes de Claire d'Assise, pour essayer de montrer ce que c'est que l'intimité, premièrement. Deuxièmement, montrer que le concept d'intimité, c'est un concept qui vient du christianisme, qui n'est ni grec, ni chinois, si je peux dire, pour prendre deux grandes cultures. Donc c'est proprement chrétien, l'intimité, mais qu'on peut vivre l'intimité sans Dieu, mais non pas sans autre, non pas sans altérité. Claire d'Assise écrit certes aussi d'une part une lettre, mais d'autre part d'une part une règle, mais d'autre part quatre lettres. Or, ce qui a attiré mon attention, c'est la contradiction apparente qu'il pouvait y avoir entre un passage de la règle qui dit la chose suivante à propos de la sœur Clarisse, qu'elle soit sans amour particulier, de peur qu'en chérissant plus une partie, elle n'engendre du scandale pour le tout. Donc, dans la vie Clarisse, pas d'amour particulier, on ne doit pas aimer une sœur plus qu'une autre, puisque sinon, on risque de créer de la dissension au sein du monastère. Mais par ailleurs, Claire d'Assise écrit, donc non pas dans la règle, mais au début de la quatrième lettre à Agnès de Prague, vous l'avez sur votre feuille, je lis, elle commence sa lettre comme ça, elle parle d'elle à la troisième personne du singulier, comme on fait traditionnellement dans la structure traditionnelle des lettres dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, par une phrase qui indique une intimité folle, si je puis dire, avec Agnès de Prague. À la moitié de son âme et au réceptacle de l'amour singulier de son cœur, à l'illustre reine, à l'épouse de l'agneau roi éternel, à Dame Agnès, sa mère très chère et sa fille particulière entre toutes les autres, Claire, indigne servante du Christ et servante inutile des servantes du Christ, qui demeure dans le monastère de Saint-Damien d'Assise, salue et qu'avec les autres vierges très saintes, etc. À la moitié de son âme et au réceptacle de l'amour singulier de son cœur. Phrase extrêmement forte, adressée par quelqu'un à quelqu'un d'autre, par une femme à une autre, que par ailleurs elle n'a jamais vue, ce qui est intéressant. La manière qu'on peut être intime avec Dieu sans jamais l'avoir vu. Claire d'Assise n'a jamais vu Agnès de Prague, puisque Claire d'Assise habite à Assise et Agnès de Prague à Prague, et que Claire d'Assise n'a jamais fait le chemin dans un sens, et Agnès non plus. À la moitié de son âme, qui indique quand même une intimité d'une force énorme, à la moitié de son âme, et au réceptacle de l'amour singulier de son cœur. Et donc, cet écart apparent entre l'absence de singularité dans la relation que dit la règle de Claire d'Assise et le lien d'amour, de charité, mais disons d'amour très particulier qu'il y a entre Claire d'Assise et Agnès, manifesté ici et par ailleurs dans les lettres, m'a mis la puce à l'oreille et m'a amené à reconsidérer les choses et à comprendre ce que c'est que l'intimité au fondement d'une spiritualité aussi rigoureuse que celle de Claire d'Assise et au fondement même de ce que peut être toute spiritualité pour aujourd'hui. au centre de la troisième lettre de Claire d'Assise, on a la phrase suivante. Claire invite sa correspondante à poser son esprit, son âme, son cœur sur celui qui manifeste le Père. Et on assiste ensuite à un vertigineux renversement lorsque Claire dit la chose suivante. La plus digne des créatures, l'âme de l'homme fidèle, est plus grande que le ciel, puisque les cieux, avec les autres créatures, ne peuvent contenir le Créateur, et seule l'âme fidèle est sa demeure et son siège. Je vais répéter, j'explique et je recite. Aucune créature ne peut contenir le Créateur, Dieu, mais l'âme de l'homme peut contenir Dieu. Le seul lieu où Dieu infini peut se tenir, c'est dans l'âme de l'homme. Je relis. La plus digne des créatures, c'est-à-dire la plus digne des créatures, l'âme de l'homme fidèle, est plus grande que le ciel. Puisque les cieux avec les autres créatures ne peuvent contenir le Créateur, et seule l'âme fidèle est sa demeure et son siège. La créature contient le Créateur, l'âme contient Dieu, le fini contient l'infini. Le dehors, Dieu, est dedans. Le tout autre, Dieu, l'extérieur absolu, est le plus intérieur. Celui qui, par sa parole, a créé le ciel et la terre, est plus intérieur que mon intime. Intérieur intimo meo, dit Augustin dans les Confessions, qui est la phrase décisive. Car en effet, c'est à saint Augustin, l'auteur des Confessions, qu'il faut revenir pour comprendre aussi bien le lien qui unit Claire à Agnès que le lien qui unit Claire ou Agnès à Dieu. Et ce lien, c'est l'intimité. Étant averti par là de faire retour en moi-même, j'entrerai dans mon intime sous ta conduite, dit saint Augustin à Dieu, et je l'ai pu parce que tu t'es fait mon soutien. Donc, je traduis, j'entre en moi-même, mais sous la conduite d'un autre. Et ce que j'aperçois dans mon âme où je suis ainsi conduit, c'est la lumière qui m'a créé. Dieu éclaire du dedans cet intime, et l'éclairant lui donne consistance. Dieu me révèle le plus intérieur de moi-même. Il me le fait découvrir et il le déploie. Donc Dieu est le nom de celui qui est à la fois le dehors absolu. Dieu est en dehors du monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, dit le début de la Genèse. Dieu n'est pas dans le monde, ce qui est bien ce que dit la foi juive et la foi chrétienne, et ce qui est propre à la foi juive et la foi chrétienne. Il y a un dehors du monde. Dieu, c'est le nom de ce dehors. Et pourtant, celui qui est le dehors absolu est plus intérieur à moi-même que moi-même. Donc, mon âme est sans fond, plus grande que le ciel, contenant celui en qui toutes choses sont contenues, dit sainte Claire, elle contient le Créateur. L'autre absolu est dedans et ouvre absolument ce dedans de moi-même. Le christianisme ouvre ou déploie cette ressource, ce que je vais appeler une ressource, cette ressource de l'intime. Et ce que peut apporter le christianisme à l'Occident, au monde, c'est cette ressource de l'intime. L'intérieur se creuse et s'ouvre sur un dehors à l'intérieur même de la subjectivité. Que dire ? Demande Agnès à la fin de la dernière lettre que vous avez sous les yeux. Que dire de plus ? C'est le numéro 25. Que dire de plus ? Je cite la suite. Que dans la dilection de toi se taise la langue de la chair, ou plutôt que parle la langue de l'esprit. Opposition paulinienne par laquelle j'ai commencé, entre la chair, le charnel, et l'esprit, le spirituel. L'intime, c'est ce qui se passe du langage. Je poursuis. Ô fille bénie, puisque la dilection que j'ai pour toi, la langue de la chair ne pourrait en aucune façon l'exprimer plus pleinement, ce que je t'ai écrit incomplètement, je te prie de le recevoir avec bienveillance et dévotion, considérant en cela au moins mon affection maternelle, par laquelle tous les jours je suis affecté de l'ardeur de l'amour envers toi et tes filles. Mon affection maternelle par laquelle tous les jours je suis affecté de l'ardeur de l'amour. Claire d'Assise dit, à propos dans le rapport au Christ, au verset 11, dont l'affection affecte. Avec une formule redondante, dont l'affection affecte. Il s'agit de ressentir ce que ressentent les amis dans la vie avec le Christ, dans l'intimité avec le Christ. Il s'agit, dit autre part Claire, de ressentir ce que ressentent les amis en goûtant la douceur cachée que Dieu lui-même a, dès le commencement, réservée à ses amants, amatoribus, à ses amants. La relation à Dieu est conçue à partir du modèle de l'amour vécu entre deux amants. Mot qu'elle emploie de préférence à ami. Et il s'agit de ressentir et de goûter dans la relation avec Dieu ce que ressentent et goûtent deux amants. Douceur cachée, secrète, intime. L'amour est suave, dit Claire d'Assise, et celui de Dieu est plus suave encore, suavior. Autrement dit, il s'agit bien d'un amour, lorsque Claire parle de l'amour avec Dieu, qui engage tout l'être pour venir l'affecter. La relation à Dieu affecte tout l'être. Il s'agit, dit Claire, de jouir. D'Atour Potiri, il s'agit de jouir. Et la jouissance ne peut qu'être donnée par un autre qui m'affecte. Ce qui est vrai de toute jouissance. L'amour, la jouissance est toujours donnée par un autre qui vient m'affecter, y compris dans ma chair. Dans cette quatrième lettre, je prends un exemple qui appartient à cette lettre, parlant de la relation à Dieu, c'est le verset 29, je prends le verset 27, vous suivez, vous voyez où c'est ? 27. « Puisses-tu donc, elle s'adresse à Agnès, ô reine du roi céleste, être sans cesse plus fortement embrasée de l'ardeur de cette charité, de l'ardeur de cet amour. Ô reine du roi céleste, relation donc conjugale, nuptiale. De plus, contemplant ses indicibles délices, ses richesses et ses honneurs perpétuels, et en soupirant dans le désir et l'amour extrême de ton cœur. En soupirant dans le désir et l'amour extrême de ton cœur. » Donc c'est bien d'orgasme qu'il s'agit dans la relation à Dieu entre Claire d'Assise et Dieu. C'est un amour qui affecte la chair elle-même. Ce qu'on trouve éminemment chez Thérèse d'Avila. Bon. Ce qui veut dire que l'amour, c'est une thèse qui m'est chère, est univoque. C'est-à-dire que l'homme, s'il est à l'image de Dieu, c'est en tant qu'il aime. L'homme rejoint Dieu en tant qu'il aime. L'amour est ce qu'il y a de commun entre l'homme et Dieu. Ce n'est pas l'être que nous avons de commun entre l'homme et Dieu. L'être vient après. Et Dieu n'a pas besoin d'exister pour être Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être. Mais en revanche, si Dieu est Dieu, ce n'est pas parce qu'il existe, ce qui ne veut pas dire grand-chose, et d'ailleurs on ne sait pas très bien ce que ça voudrait dire que Dieu existe, puisqu'on ne peut pas concevoir comment Dieu pourrait exister. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'existe pas comme nous, nous existons. Bon, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc Dieu n'a sans doute pas besoin d'exister pour être Dieu. En revanche, Dieu a besoin d'aimer pour être Dieu. Dieu est amour. Et si nous avons quelque chose en commun avec Dieu, si nous sommes à l'image de Dieu, ce que nous avons en commun, c'est bien l'amour. Donc l'amour se dit de manière univoque entre nous et Dieu. Donc tout ce que nous vivons ou éprouvons de l'amour vient de Dieu et nous ouvre l'accès à Dieu. Et il n'y a pas, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis, de distinction qui n'est pas biblique mais qui est grecque. Il n'y a pas de distinction biblique, en tout cas dans la Bible, entre deux formes d'amour, comme on dit aujourd'hui chez les chrétiens, français, parce que c'est pas pareil partout, un amour qui serait l'agapé, la charité, où on ferait la charité, et puis un amour érotique, d'autre part. Cette distinction n'est pas biblique. S'il y a de l'amour, c'est qu'il y a de l'amour, éros. Donc tout amour est érotique. Donc tout amour, y compris avec Dieu, affecte la chair. Thérèse d'Avila le sait bien. Bon, seulement comme nous vivons dans une société qui est très très pauvre érotiquement, nous confondons érotisme et sexualité. Or, l'érotisme, ce n'est pas la sexualité. Et l'érotisation de la chair, ce n'est pas la sexualité. Là, la distinction, elle passe là. Elle passe entre, d'un côté, l'amour érotique qui affecte la chair, y compris dans la prière, d'une part, et d'autre part, la sexualité, forme possible, parmi d'autres, de l'amour. Donc, ce dont Claire parle, dans ses lettres, il faudrait le montrer, beaucoup plus que ce que je le fais, c'est de la logique de l'amour, c'est-à-dire l'épreuve érotique. Soyez toujours des amantes de vos âmes, dit Claire. Soyez toujours des amantes de vos âmes et de toutes vos sœurs. La relation est réciproque et se dit dans les deux sens. C'est en recevant l'amour de ses sœurs que la Clarisse s'aime elle-même et peut aimer ses sœurs en retour. L'amour est donc don reçu et je m'éprouve aimée et ne me reçois comme telle, comme aimée, que lorsque cet amour m'est donné. Donc ce qui singularise la Clarisse, mais qui ne l'individualise pas socialement, c'est l'amour duquel elle se reçoit, qui la constitue dans son intimité, qui l'ouvre à elle-même de l'intérieur et qu'elle reçoit de Dieu, ou de la relation entre elle et Agnès lorsqu'elles s'écrivent. Parce que l'amour, c'est toujours une relation. Une relation où on s'adresse à celui qu'on aime par la parole. Et Agnès dit « tu » à Claire. Il y a une adresse. Et s'il y a de l'amour, s'il y a de l'intimité qui surgit, c'est bien parce qu'on s'adresse à quelqu'un. Donc l'intimité n'est pas une relation de connaissance. Si je connais cette table, je ne m'adresse pas à la table. Je la constitue comme table, opération intellectuelle, à partir de moi-même. J'en fais un objet de connaissance. Dans la modernité, cet objet de connaissance, c'est c'est-à-dire une chose réduite à ce qui en elle est mathématisable. Son poids, sa mesure, etc. Bon. Mais c'est moi qui constitue, à partir de la chose, l'objet pour en faire un objet de connaissance. Or, si je suis quelqu'un qui aime, je me reçois comme aimant de l'autre qui m'aime. Donc c'est parce qu'un autre s'adresse à moi toujours déjà d'abord que je peux m'approfondir moi-même et trouver en l'autre qui m'aime ma stabilité. Débouchant sur une relation qu'on appelle la prière, ce que nous avons vu la dernière fois. Mais Dieu est celui qui aime parfaitement. Le philosophe qui s'appelle Jean-Luc Marion, philosophe sur lequel je m'appuie lorsqu'il est question de l'amour, dit à cette phrase très belle, « Dieu est le meilleur des amants ». Il me faut conclure. Trop vite, il faudrait passer un week-end pour expliquer tout ça. Bon, il faudrait 2 jours. C'est l'intimité qui fait vivre. Ce qui fait surgir de la vie en nous, c'est l'intimité. C'est la relation d'intimité avec quelqu'un. C'est une ressource pour vivre, l'intimité. L'intimité, c'est cette expérience d'un dedans partagé. L'intime, au lieu que chacun soit abandonné à son dehors, tu es là devant moi et nous sommes dehors l'un par rapport à l'autre, vous êtes au dehors par rapport à moi, et nous vivons dans des dehors. L'intime, c'est ce qui promeut un dedans partagé. L'intime est une pénétration qui ouvre un dedans partagé. C'est la frontière qui tombe entre l'autre et soi, et cet autre qui vient creuser en moi l'infinité d'un soi se dépossédant de lui-même. Quand le retrait à l'intérieur de soi débouche sur la relation à l'autre, ou pour le dire aussi bien à l'envers, quand c'est par ouverture à l'autre que se découvre un plus intérieur à soi, l'approfondissement de l'intime au-dedans de moi se faisant par accès à ce dehors de moi-même. L'intime, c'est lorsque les barrières sociales tombent. Là, c'est lorsqu'on est nu devant un autre. C'est lorsqu'on est nu devant un autre. Lorsque on est complètement avec quelqu'un. Lorsque l'autre est en moi et moi en l'autre. Ce que vivent parfois les couples. Parce qu'on peut vivre en couple en vivant à côté. C'est pas parce qu'on vit en couple qu'on a des enfants, qu'on est intime. Il existe des couples qui vivent sans intimité. Parce que l'intimité, c'est être avec l'autre. Ce qui s'oppose, enfin, il faudrait l'expliquer plus précisément, mais ce qui s'oppose, c'est une relation de conquête. Or, lorsque dans le couple, on vit la relation à l'autre sous modalité de la conquête érotique, conquérir le corps de l'autre, conquérir les sentiments de l'autre, on n'est pas dans l'intime. Donc, on peut être en couple sans être intime, d'une part. D'autre part, 2 amis peuvent être intimes. Il peut y avoir une forte intimité dans l'amitié. Et puis, troisièmement, il peut y avoir une forte intimité avec Dieu dans la prière. Et la vie spirituelle, c'est ça, c'est le surgissement de l'intime. En tout cas, dans la tradition chrétienne. Mais on voit comment cette tradition chrétienne peut sortir de la foi chrétienne. L'intime n'a pas besoin de Dieu. Mais c'est la tradition chrétienne qui a promu l'intime comme ressource. Parce que la tradition chrétienne, c'est quoi? C'est la position d'un autre. Il y a de l'autre. La foi chrétienne, c'est cette idée qu'il y a de l'autre. Et la foi chrétienne l'a appelé Dieu. Bon, il y a de l'autre vraiment autre. Mais cette idée qu'il y a de l'autre a fait son chemin en Occident et nous a permis de, à travers en particulier le concept de personne qui a inventé la foi chrétienne pour poser des êtres humains comme des personnes, la foi chrétienne a inventé les droits de l'homme, etc. Bon. Mais donc la foi chrétienne a promu cette ressource de l'autre, de l'altérité, et l'intime c'est donc quand il n'y a plus de barrière entre moi et l'autre. Lorsque ma vie est ancrée dans un autre, dans le fond sans fond d'une vie partagée. Cet amour qui fait tomber les barrières, qui creuse un dedans partagé et qui fait vivre. Donc c'est cela qui s'approfondit. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, je suis en train d'écrire l'article là-dessus. C'est ça qui s'approfondit dans la vie de la Clarisse, ce qui se dit dans les lettres de Claire d'Assise. C'est ça que l'on trouve dans, chez saint Augustin, la vie ancrée dans un autre auquel on s'adresse, qui est tout le projet des confessions de saint Augustin. C'est ça qui est la ressource propre à la foi chrétienne. C'est ça qui est au fondement de toute spiritualité. Ça n'a pas besoin de Dieu, parce qu'on peut être ancré dans un autre être humain, mais c'est une ressource qui fait vivre et que la foi chrétienne apporte, je crois, à l'Occident aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.